Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à jeudi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, vous le savez, la libre antenne est votre émission. Chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a inspirée dans la journée. Et ce soir, j'ai choisi le mot « bienveillance ». La violence est omniprésente dans la rue, à la télé, dans notre vie chaque jour. Pourtant, la bienveillance doit retrouver droit de cité pour que nous vivions mieux ensemble. Vouloir le bien d'autrui sans contrepartie et se préoccuper des autres avec désintéressement, voilà le projet individuel que je vous propose ce soir. D'ailleurs, je reprendrai le slogan publicitaire « L'essayer, c'est l'adopter ». En effet, essayez et découvrez les vertus d'une attitude bienveillante. Elle facilite l'écoute, le dialogue, la compréhension et apaise les tensions. De votre côté, pratiquez-vous la bienveillance? Comment se traduit-elle concrètement? Appelez-nous au 3921 pour partager vos expériences, votre avis, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qui est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot nuit ou par mail libreantenne@europe1.fr. Cindy et Adrien, fidèles au poste, vous répondront au standard du 3921. C'est Laurent Pellet qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Bonsoir Solange.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui vous arrive, donc, Solange?
Alors, en fait, j'ai été victime d'un placement abusif le 9 octobre 2010.
Qu'est-ce qui s'est passé très exactement?
Eh bien, en fait, j'étais en couple avec donc, le papa de mes deux dernières filles. Je suis maman de 4 enfants. Et cette personne, j'étais séparée de cette personne car il était déjà un petit peu violent auparavant. Donc j'ai emménagé dans une grande maison avec mes 4 enfants.
D'accord.
À l'époque, mes enfants, la plus petite avait 8 mois au moment des faits. Ma deuxième fille avait 18 mois, mon fils il avait 4 ans et mon grand-fils avait 6 ans. Mon ex-mari est venu chez moi, il voulait qu'on se remette ensemble, j'ai refusé. Donc il m'a violemment frappée, donc j'ai fait 3 mois de coma. Et à ce moment-là, mes enfants ont été pris par l'ASE.
Oui.
Donc, pendant 3 mois, donc, j'étais en coma. À la sortie de mon coma, donc, on m'a annoncé que mes enfants étaient placés. J'ai désespérément essayé de les récupérer sans suite. Ça fait 12 ans que je me bats aujourd'hui pour pouvoir récupérer mes enfants. Là, si j'ai fait appel aussi pour passer à l'antenne, c'est que je rencontre aussi un problème assez grave concernant mon fils Tommy. Il est actuellement à l'hôpital psychiatrique. Il ne veut plus être placé. Il en a marre d'être placé. Il n'arrête pas de pleurer, de se mutiler, de se faire du mal. Il n'est pas entendu par personne.
Oui, il y a urgence. Votre fils, c'est lequel? C'est celui qui avait 4 ans à l'époque, 6 ans?
Alors, c'est 18... celui qui avait 4 ans à l'époque, qui a maintenant 16 ans.
Oui, d'accord.
Je tiens aussi à informer que j'ai un grand garçon de 18 ans qui a été ballotté également de foyer en foyer. C'est un jeune qui est en errance totale, qui consomme de l'alcool, de la drogue, parce que le foyer n'a pas voulu le tenir, on va dire. Ils m'ont dit, vous savez, votre fils, il a 16 ou 17 ans, on ne peut pas l'attacher. Alors j'ai dit, mais quand même, vous pouvez l'empêcher quand même le soir de faire des sorties pour éviter qu'il soit en contact avec des mauvaises personnes et qu'il consomme beaucoup de choses qu'il ne devrait pas. Ah ben oui, mais madame, ce n'est pas notre rôle. Alors je dis, quel est votre rôle en tant qu'éducateur si ce n'est pas de protéger les enfants que vous avez en charge? Et là, j'ai été rendre visite à mon fils Tommy samedi. Il pleure, il a envie de rentrer chez moi. Et j'ai envie de dire aussi que j'ai été très mal reçue à l'hôpital psychiatrique parce que j'ai dit que mon enfant était en souffrance, que mon enfant voulait rentrer chez moi. Le monsieur m'a dit, vous savez, si on place des enfants, c'est qu'il y a des raisons. Si on vous les rend pas, c'est qu'ils ont aussi des raisons. J'ai dit, excusez-moi, mais vous ne connaissez pas le dossier, je vous permets pas de parler comme ça. Donc, je me suis mis à pleurer, ce qui est normal. Il m'a dit, je vous invite fortement à aller voir un psychologue. Alors, quand on est une maman qui aime ses enfants, qui pleure parce que son enfant va mal, on nous dit d'aller voir un psychologue.
Solange, déjà, à l'écoute de tout cela, je suis vraiment désolée de tout ce qui vous arrive. C'est vraiment...
Moi, je vis un calvaire permanent. Je suis une personne qui est malvoyante. J'ai perdu, donc, quand mon ex-conjoint m'a frappée, j'ai perdu la vue de l'œil droit. J'ai 2/10 à l'œil gauche. L'année dernière, j'ai eu beaucoup d'hospitalisations, car je ne suis pas en très bonne santé. J'ai envoyé des mails à l'éducatrice en charge de mes enfants pour dire, voilà, je ne peux pas venir voir mes petits. C'est pas que je ne veux pas, je suis à l'hôpital. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je transmets l'info. Elle n'a pas transmis l'info. J'ai été privée de mes droits pendant 7 mois.
J'ai plein de questions à vous poser, Solange. Oui. Vous acceptez qu'on aille un petit peu plus loin? Parce que j'imagine que forcément, votre appel, c'est aussi après pour passer un message, voire un appel, voire... Un appel au secours, hein, clairement, c'est ce qu'on entend. Fait que, voilà, hein, vous êtes en apnée, donc il y a urgence. Solange, j'entends tout ce que vous me dites. La famille, elle est où? Vos amis, qu'est-ce qui s'est passé pour que vos enfants se retrouvent placés, que pendant 12 ans, personne ne vous ait permis de pouvoir récupérer vos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, quand je suis tombée dans le coma le 9 octobre 2010, j'ai perdu malheureusement ma mère le 3 décembre 2010. Je n'ai pas pu assister aux obsèques car j'étais en coma. Donc déjà, quand je me suis réveillée du coma le 11 janvier, on m'a annoncé non seulement la perte de ma maman, mais aussi la privation d'être maman. On m'a privé clairement de mes enfants. Voilà. Mon papa est décédé il y a 2 ans. C'était un homme âgé qui avait 82 ans. C'est mon père adoptif.
Oui.
Ce monsieur m'a adopté. Il a tout donné pour moi. Il m'a tout fait pour moi. Ce monsieur est décédé sans avoir pu prendre ses petites filles dans les bras. Parce que les systèmes ne veulent pas. Ils veulent couper les ponts avec les grands-parents. Ils coupent les ponts avec les parents même. Ils coupent les ponts avec la famille. Là, malheureusement, je parle au nom de tous les parents de France, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire ce que je fais ce soir, qu'ils ont peur ou qui sont trop timides. Mais si je les invite à le faire également pour dénoncer ça, parce qu'il y a plein de parents d'enfants dans le même cas que moi, qui est en souffrance,
malheureusement,
qui ne peuvent plus voir leurs enfants.
La semaine dernière, nous avions eu une personne aussi qui nous a appelé pour nous témoigner, nous partager de sa souffrance, parce que ses enfants également, elle n'arrivait pas à les récupérer. Donc un placement abusif également, hein, c'est le terme adéquat. Donc, qui vous aide? Qui vous aide depuis 12 ans
je me bats malheureusement toute seule, parce que moi, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, faut savoir en France que quand on a l'aide juridictionnelle, les avocats vous défendent, mais au minimum, parce que les avocats sont payés à 0,1 centime de l'heure. Donc, c'est les avocats qui aident au minimum. Par contre, pour les gens qui ont un peu plus d'argent, ils prennent un peu plus, ils aident plus les familles, voyez-vous. C'est ça aussi, je ne suis pas aidée de ce côté-là, parce que ça devrait être autrement. Parce que quand on a un avocat, il doit défendre de la même manière que s'il a un autre client qui a de l'argent, voyez-vous.
Donc, et l'ASE, Solange, vous les avez contactés, vous avez vu certainement avec eux.
Je n'arrête pas d'alerter l'ASE. J'ai d'ailleurs réussi à décrocher un rendez-vous avec la chef territoriale, qui est Madame Briard du Calvados, en date du 1er septembre. Parce que moi, quand je les ai appelés plusieurs fois pour alerter la situation, parce que mon fils est quand même un enfant qui a des problèmes psychologiques depuis le placement, il se mutile. Il y a 15 jours, voire un mois, il a voulu s'ouvrir les veines, parce qu'il en a marre du placement. J'ai téléphoné à l'ASE en expliquant, voilà, je suis Madame Desbar. Et là, la secrétaire me dit, attendez, je vous arrête tout de suite. Si ça concerne le dossier de Tommy, on est tous au courant. Alors, comment voulez-vous réagir? Vous êtes tous au courant, mais vous ne réagissez
ouais,
pas.
Oui, il n'y a pas de réaction, ouais, absolument.
Et on me donne un rendez-vous le 1er septembre. Alors là, j'ai eu une information aujourd'hui par le psychiatre en me disant que il voulait clairement rien faire. J'étais outrée de sa réponse parce que je lui dis, mais docteur, en tant que psychiatre, vous êtes tenu quand même d'alerter madame la juge, de dire que l'enfant est en souffrance, de dire qu'il ne va pas bien, de dire qu'il doit retourner chez ses parents. Ah ben oui, mais nous, vous savez, on ne s'occupe pas de ça. Je me suis renseignée, normalement, ils sont tenus de faire ces genres de courriers. Il n'a pas souhaité le faire, tout simplement, il n'a pas voulu. Alors vous voyez un petit peu, quand il y a des enfants qui sont en souffrance, tout ça, moi je ne comprends pas parce qu'on dit c'est l'aide sociale à l'enfance. Très bien, quand il y a des parents qui violentent leurs enfants, je suis d'accord. Quand il y a des parents qui, il y a des histoires de viol, il y a plein de choses horribles, je suis d'accord. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été victime de coups et blessures par mon ex-conjoint et j'ai une double peine parce que déjà, j'ai été frappée, j'ai fait 3 mois de coma, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma maman. Oui. Ma vie s'est arrêtée le 9 octobre 2010. Moi, l'heure où je vous parle, je ne vis pas, je survis. Parce que sans mes enfants, je ne vis pas. Je ne peux pas vivre.
Est-ce que vous travaillez, Solange? Est-ce que vous avez trouvé une activité
professionnelle? Alors, je ne travaille pas pour l'instant parce que, du coup, vu que je suis malvoyante, c'est assez compliqué déjà pour trouver du boulot. Pour une personne valide, c'est très compliqué. Pour une personne invalide, c'est encore plus compliqué.
Dans quoi est-ce que vous recherchez?
Moi, je recherche surtout dans la vente parce que j'ai été commerçante pendant 10 ans de ma vie sur les marchés. D'ailleurs, quand j'ai tombé dans le coma, j'étais encore en activité. Hein.
D'accord.
Et voilà, quoi. Donc, vous voyez, j'ai tout perdu à ce moment-là, le 9 octobre 2010, quoi. Et là, je me bats sans relâche pour pouvoir sortir mon fils Tommy de cette situation. Et voilà, ouais. Personne ne veut m'entendre, en fait. Et là, c'est dur. Hein. Mentalement, c'est très difficile, hein, ce que je vis actuellement. Hein. Mais il n'y a pas que moi, hein. Je parle au nom de tous les parents de France
sûr,
qui sont dans le même
sûr.
Cas que moi, parce qu'il y a des cas aussi beaucoup plus graves que les miens. Il y a des enfants qui sont battus, tout ça dans les foyers. Mon fils Tommy a été battu par un éducateur, il lui a cassé le col du fémur en 2019. Oui. Et je tiens à citer l'Institut des Emma à Saint-Michel-de-Montjoie, c'est là-bas que ça s'est passé. Mon fils a été plâtré d'en haut de la poitrine jusqu'au bout de la cheville. Ensuite, il a eu 6 mois de rééducation. Alors, vous voyez, mon fils va très mal, mais il a beaucoup subi. Et alors, la seule chose qu'il demande, c'est de retourner chez moi.
Solange, pardonnez-moi ma naïveté, mais quand on est face à une situation comme ça, où votre fils se retrouve plâtré, on ne peut pas porter plainte? C'est pas possible?
Eh bien, écoutez, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé plainte.
Ah.
C'est toujours en attente. Parce que, aussi, le service avait menti à l'époque, puisque ils ont dit l'enfant s'est cassé le col du fémur à l'extérieur. Chose qui ne peut pas être vraie, puisque dans cette structure-là, c'est un grand bâtiment avec des étages. Il n'y a pas d'ascenseur.
C'est Tommy qui a eu ça ?
Alors, un enfant, clairement,
c'est Tommy qui a eu...
voilà.
Oui.
Tommy, ils ont été racontés que Tommy s'était cassé le col du fémur dehors, mais qu'il serait remonté 3 étages plus haut à pied. Bon, moi, écoutez, j'ai appelé le service d'ambulance qui est venu le chercher, les pompiers. Ils m'ont envoyé le rapport. Ils m'ont dit, madame, nous attestons sur l'honneur que votre fils a été violenté par le service, qu'il a eu le col du fémur cassé à 23h le soir. Il a été emmené au CHU de Caen. C'est un docteur, une dame qui est très gentille, qui s'appelle docteur Piu Piu Kim, qui est adorable. Elle m'attendait, donc je suis allée à l'hôpital. Elle m'a confirmé les dires des pompiers, comme quoi
Tommy.
Mon fils a été violenté,
Tommy
voilà,
aussi.
De Tommy.
Non, mais
et
Tommy aussi a dû également...
Ah, oui.
Oui, voilà, il
ah
a donné
oui,
sa version.
Il l'a reconnu
ouais.
Et il a été entendu et c'est toujours en attente. Donc Tommy, il a été ballotté partout. Il n'y a pas longtemps, il a été mis dans un hôtel à Paris. Donc moi qui est malvoyante, la juge quelque part me forçait à aller rendre visite à mon fils à Paris, en sachant que je ne travaille pas actuellement et en sachant que je suis malvoyante. Donc j'étais dans l'obligation d'aller voir mon fils, mais c'était assez compliqué comme pour moi, puisque étant malvoyante, de se déplacer à Paris en train, c'est pas facile. Mais j'y suis allée. Voilà, mon fils est constamment mis d'endroit à un autre et on me dit, ça ne marche pas dans cette structure, on va mettre Tommy ailleurs. Et ça continue et ça fait 12 ans que ça dure.
Alors j'entends et je comprends hein, votre rage, votre colère, Solange. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour récupérer vos enfants? Est-ce qu'on vous dit, trouvez-vous déjà une activité professionnelle ou plutôt trouvez une forme de stabilité? Enfin, c'est quand même ubuesque de se dire que vous êtes là à crier, à demander à récupérer vos enfants. En face, vous savez, hein, c'est l'administration, on vous demande tout le temps des garanties. Donc, quelles sont les garanties que vous avez aujourd'hui pour faire vraiment corps, pour montrer concrètement que, voilà, vous apportez une structure stable, que vous êtes leur maman, que vous êtes avec eux et que vous voulez les récupérer. Et puis, eux-mêmes le demandent.
Eh bien, écoutez, là, j'habite donc à Condé, en Normandie. Je suis en couple. J'ai une situation stable. Dans mon ancien logement sur Bayeux, j'avais un logement, j'avais tout ce qu'il fallait. L'éducatrice m'a dit, c'est bien, vous avez une chambre pour pouvoir accueillir vos fils, c'est très bien, je vous félicite. Mm-hmm. Mais on va augmenter d'une heure seulement. Je dis, madame, vous m'avez demandé d'avoir une chambre pour accueillir mes enfants, chose que j'ai fait, et vous me dites que vous m'accordez une heure supplémentaire. En fait, il ne se base pas à la situation des personnes, c'est à leur bon vouloir. Parce que je peux très bien habiter dans une maison avec 10 chambres, ça ne va pas changer leur point de vue.
Ah oui.
Parce que, aussi, une chose que je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez tabou, les audiences des juges sont à huis clos. Pourquoi ? Déjà pour protéger les enfants, je suis d'accord. Mais c'est surtout pour protéger les services de l'ASE. Parce qu'ils ne veulent pas que l'ASE parle devant tout le monde, forcément. Ce n'est pas dans leur intérêt d'aller dénigrer des parents. Vous voyez ? C'est pour ça qu'ils font des audiences clos. Malheureusement.
Que vous avez reçu un SMS d'un auditeur ou d'une auditrice, hein, ça n'est pas signé, donc je vous le lis en direct. Bonsoir, ce mari violent est-il en prison?
Alors, je suis donc tombée dans le coma le 9 octobre 2010. Ça a été jugé en 2011, alors je crois que c'était en juillet. Monsieur n'a pas été en prison, il a juste eu 300 euros d'amende et une interdiction de m'approcher.
Mais pas les enfants?
Voilà. Alors, mes filles, jusqu'à présent, il les voyait.
Justement, après, je vais vous poser des questions sur vos filles. Ouais.
Comme là, j'ai été supprimée de mes droits pendant 7 mois parce que j'étais malade l'année dernière, monsieur n'a pas du tout téléphoné au service, il n'a pas du tout appelé. Donc, officiellement, le juge a clairement dit qu'il ne verrait plus les gamines, honnêtement, puisque c'est une personne qui ne s'intéresse pas du tout à mes filles. Il a clairement dit qu'il n'a pas pu créer de lien parce qu'ils y étaient placés. Je suis désolée, moi, mes filles aussi, je suis dans le même cas que lui, puisqu'on a eu les enfants placés en même temps. J'ai pu créer des liens avec mes enfants et je garde ce lien. Il est très important, même si c'est que 2 heures par mois, je les prends les 2 heures et je crée le lien avec mes filles. Et c'est un lien qui est très important de garder des liens avec ses enfants.
Bien sûr.
Très important.
Bien sûr. Où sont vos filles aujourd'hui, Solange?
Alors, mes filles sont placées en famille d'accueil depuis qu'elles sont toutes petites.
Oui.
Dans la famille d'accueil, ça se passe très bien. Mais Nolwenn, aux dernières nouvelles, j'ai su qu'elle commençait à avoir également des problèmes avec les psys et tout ça. Parce que le fait de ne pas m'avoir vue depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, ça a créé quelque part une souffrance chez elle. J'ai reçu des courriers d'éducatrice me le marquant sur une feuille, hein, donc je ne vous raconte pas de bêtises.
Oui.
Elle a dit que Nolwenn était en grande souffrance et qu'elle demandait au juge de me remettre mes droits parce qu'elle voyait que les enfants étaient en manque de pouvoir me voir parce qu'ils sont beaucoup en demande de me voir. Et ça me fait énormément mal de ne pas voir mes filles depuis le mois de décembre. Je n'ai pas vu mes filles depuis le début décembre.
Vous vous interdisez d'aller les voir?
Ah non, 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 c'est eux qui ne veulent pas. Les services m'ont empêché, le juge m'a empêché de les voir depuis le mois de décembre.
Ah d'accord, il y a eu un jugement. D'accord.
Ben oui, parce que vu que j'étais absente l'année dernière, justifié par mail, j'ai bien justifié. Moi, je suis passée en cour d'appel le 7 juin au tribunal de grande instance de Caen. Madame la juge m'a regardée, elle a vu déjà que j'étais malvoyante. Je lui ai montré les mails que j'avais dans mon téléphone. Elle me dit, mais comment ça se fait que l'éducatrice en question ne m'a pas transmis ces informations? Je lui ai dit, madame la juge, je ne sais pas, mais j'en ai la preuve que j'ai bien averti. Et c'était pour des problèmes médicaux, j'étais hospitalisée, donc je ne pouvais pas faire autrement. J'étais hospitalisée.
Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas une criminelle, quoi. 2 heures par mois, enfin, c'est
alors
vraiment...
Maintenant, mes droits, si vous voulez, ils avaient augmenté. J'étais à, si vous voulez, j'avais 11h, 16h30, tous les 15 jours. La juge avait augmenté il y a 2 ans en arrière. Elle m'avait augmenté parce que je lui ai dit à madame la juge, écoutez, l'éducatrice ici présente me dit que je ne fais pas d'activité avec mes enfants. C'est pas que je veux pas les faire, mais vous recevez vos enfants à 11h jusqu'à 14h. À quel moment vous pouvez faire des activités avec eux?
Ben
c'est
oui.
pas possible, c'est l'heure du repas.
Oui,
alors j'ai dit à madame la juge, écoutez, moi j'ai parlé franchement. J'ai dit, écoutez, madame la juge, je ne suis pas un numéro de dossier. Vous voulez que les choses avancent, alors commencez déjà par me faire augmenter mes droits. Je pourrais alors proposer des activités à mes enfants et
bien
passer
sûr.
plus de temps avec eux. Ben, la juge, elle a dit, bah oui, d'accord, madame Desbarres, pas de problème, on va vous augmenter vos droits. Mais voilà, quand je... Voilà, elle m'augmente mes droits, mais c'est pourquoi... Alors, pourquoi ils ont été placés? C'est, madame, nous allons pas reparler du passé. Alors, pourquoi on ne me les rend pas? Ah ben, parce que vu que vous n'êtes pas très bien, vous avez des problèmes de santé, vous êtes malvoyante, on va encore attendre un petit peu. Vous voyez, c'est ça le discours, en fait, des juges. Ils profitent de la faiblesse des gens et, comme moi, j'ai un handicap, pour pouvoir trouver le prétexte de ne pas rendre les enfants. Ils ont toujours des prétextes, toujours.
Oui, alors
c'est ça qui est malheureux.
Il faudrait juste inverser la tendance et demander, au contraire, une expertise pour démontrer et prouver que vous êtes en capacité de pouvoir vous occuper de vos
Tout
enfants.
À fait. Bien,
mais oui, au contraire.
Alors, j'ai déjà passé une expertise psychiatrique l'année dernière. Alors, quand j'ai rencontré le médecin, il commençait par me demander des détails sur ma vie d'avant, enfin, c'est-à-dire mon enfance. J'ai dit, écoutez, docteur, le juge vous a mandaté pour mes enfants, donc nous sommes là pour parler de mes enfants. J'ai rien lâché. J'ai pas voulu parler de ma vie parce que moi, je pars du principe, je suis là pour mes enfants, je parle uniquement de mes enfants. Bah, le monsieur était gêné, quoi, que je... C'est pas méchant, mais que je le rembarre un petit peu, de dire... On est là aujourd'hui pour parler de mes enfants et rien d'autre. Moi, ma vie personnelle, ça ne regarde personne. Voilà. Et bien, j'ai fait l'expert psychiatrique. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils ont pu m'augmenter mes droits et tout ça, quoi. Mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Et voilà, ça fait 12 ans que... Ça va faire 12 ans en octobre que je me bats contre un mur, en fait.
Solange,
c'est vraiment compliqué.
Oui. On se fait juste une petite pause et puis on se retrouve juste après pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement.
Pas de souci.
À tout de suite.
Merci beaucoup.
Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Waouh, t'as vu les belles merguez ? Et origine France en plus.
Oh, c'est vrai qu'elles ont l'air top. Hein.
Et la barquette de 12 merguez de 660 grammes n'est qu'à 3,89€, soit 5,89€ le kilo.
5,89€ le kilo ? Ah oh bah là, je prends direct deux barquettes.
Et voilà, trop facile. Du coup, à quelle heure le barbecue ?
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 26 au 31 juillet, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Pour joindre Sana Blanger, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Si vous aussi vous souhaitez passer en direct comme Solange, effectivement, vous pouvez nous joindre au standard du 3921 et il y a de la place. Solange, on vous retrouve
oui.
donc par rapport à vraiment une situation ubuesque hein, qui n'est malheureusement pas un cas isolé. Malheureusement.
Oui, tout à fait.
Comment peut-on vous aider, Solange? Quel est l'objet, en tout cas le but de votre appel, si ce n'est de crier au secours et de dire s'il vous plaît, aidez-moi.
Eh bien, mon but, déjà, ça serait déjà que les placements d'enfants puissent... les placements d'enfants, faudrait déjà, quand on place des enfants, faire des mesures d'AIMO, déjà dans un premier temps, pour ne pas placer les enfants comme ça.
Des mesures d'AIMO ?
Des mesures d'AIMO, des mesures d'aide.
Ah.
Vous voyez, avant de placer des enfants, de dire, bon, ben, la maman est en difficulté, il faut proposer déjà de l'aide, voir si ça va ou pas. Si ça ne va pas, bon, ben, s'ils peuvent reprocher des choses à la maman, de dire, voilà, moi j'ai été, voilà, comme je dis, un placement abusif. Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est d'être entendue sur le fait que, voilà, j'aimerais des réponses, pourquoi mes enfants sont toujours placés, pourquoi Tommy ne revient pas à la maison. C'est un enfant qui est en grande souffrance, qui crie au secours
oui.
tous les jours. Qui se fait mal, parce que mon enfant, il se mutile tout le temps. Si vous voyez dans quel état sont ses bras, c'est juste pas possible de le voir comme ça, quoi.
Oui,
et à chaque fois, il dit, je me blesse parce que je sais que maman va venir me voir. Donc pour une mère, c'est très très dur de voir son fils souffrir sans arrêt. Et bon, il a quand même 16 ans, il n'est pas tout petit. Moi, je reçois mon fils tous les 15 jours à mon domicile, en visite neutre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tierce personne. Et à chaque fois que Tommy rentre chez moi, c'est « Maman, j'en peux plus ». Il se met à pleurer. Il dit « Maman, mais pourquoi je ne suis pas avec toi et avec mon beau-père? Pourquoi je suis encore placée ?» J'ai dit « Mon fils, c'est le juge. »« Ben oui, mais maman, tu as vu le juge ?» Quand je lui dis « Je veux rentrer », il dit « Non ». Plusieurs fois, le juge a dit à mon fils « Non, Tommy, tu ne rentreras pas, tu resteras placé. » L'enfant, en France, n'est pas entendu. La parole de l'enfant, les juges n'en prennent pas compte de ce que les enfants ont besoin.
De plus en plus quand même, heureusement d'ailleurs, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ça, c'est une évidence.
C'est
et là, manifestement, ça n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes rapproché de certaines associations comme, par exemple, SOS Famille en souffrance ou... on avait parlé également d'associations, c'était l'enfantaucoeur.org, je crois, de mémoire. Est-ce que vous êtes rapproché de ces associations-là qui peuvent peut-être alors, vous aider?
Alors non, en fait, j'ai contacté une personne hier d'une association, je n'ai plus le nom en tête.
Ouais.
C'est cette dame qui m'a donné le mail pour pouvoir passer chez vous.
Sur la libre antenne.
Voilà, mais du coup, c'est vrai que je suis vraiment toute seule, en fait, à me battre depuis 12 ans. J'ai pas vraiment de nom d'association. Bon, cette personne m'a beaucoup aidée. Elle m'a mis en contact avec des personnes. Elle fait énormément beaucoup de choses. Elle est en train de m'entendre, d'ailleurs. Je lui fais un petit bonjour.
Et
je la remercie.
Oui.
Gladys, son prénom. Et heureusement que je suis tombée sur cette personne pour pouvoir avoir des contacts. Et elle m'aide vraiment. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des associations et d'être en contact avec d'autres parents pour pouvoir se battre.
C'est
parce que tout seul, c'est vrai
ça.
Que c'est compliqué.
Oui.
C'est vrai que c'est compliqué. Tout seul, c'est pas possible de
non.
se battre. C'est pas possible.
C'est pour cette raison que c'était l'une de mes premières questions. C'était de savoir si... on vous aidait. Je pense et j'ai le sentiment que là, la première des choses, c'est de pouvoir déjà saisir un avocat qui soit vraiment près de vous et qui puisse prendre en charge le dossier et de voir ce qu'il est possible de faire.
Alors,
parce que là, il y a un vrai coup de pied dans la fourmilière
alors,
à
j'ai,
mettre.
Alors, j'ai un avocat actuellement. D'ailleurs, j'ai pu envoyer la copie de l'avocat à Gladys, qui l'a reçue par mail. Alors, cet avocat allait dans le sens du juge. C'est-à-dire qu'elle ne m'entendait pas, ma propre avocat, hein, elle ne m'entendait pas sur le fait que je lui ai expliqué que mon fils était à l'hôpital, qu'il était en grande souffrance. Mais clairement, Gladys a vu le mail. Ma mère, elle a dit que c'était hallucinant la façon que les avocats puissent parler, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même les avocats ne nous entendent pas, hein, clairement. J'ai quand même appelé des avocats sur Paris aujourd'hui. Je suis en contact également avec une avocate du côté de Libourne.
Oui.
J'ai appelé un avocat à Paris. Je me suis quand même entretenue avec Michel Hamas. C'est un avocat très réputé, très très réputé, et qui m'a clairement dit que mon dossier, il y avait plein de choses qui n'étaient pas normales.
Oui.
Monsieur Hamas ne peut pas intervenir, il est avocat au barreau de Marseille. Donc ça fait trop loin et voilà. Mais voilà, il y a plein d'avocats. Moi, j'ai parlé avec un avocat aujourd'hui, Maître Raphaël à Paris. Il m'a clairement dit que tout ce que j'ai pu lui rencontrer, expliquer la situation, que ce n'était pas normal. Que même mon fils, il a 16 ans, il ne se fait pas entendre. Là, ça se passe très mal dans le foyer où il est actuellement.
Ouais.
Et ben, l'hôpital a décidé, la semaine prochaine, de remettre mon fils dans le foyer.
Oui, non mais...
Vous voyez ?
Alors, vous savez que ça réagit beaucoup au standard hein, par rapport à votre histoire et on a quelqu'un... Et oui, bah forcément, hein, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y a de la justice, c'est pas... Voilà, et comme vous l'avez très bien dit, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui souffrent de ça et d'enfants, hein, parce que ce sont les premières victimes.
Oui.
Et puis vous êtes, j'ai envie de dire, les dommages collatéraux. Nous avons quelqu'un qui souhaite réagir en direct. Ah,
oui.
On me dit qu'elle n'est pas encore là, d'accord. Bon, auquel cas, si jamais ce n'est pas en direct, sachez qu'on vous mettra en relation après votre... D'accord.
Donc, le service de l'ASE, dans certains cas, je dis bien, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des fois où l'ASE doit intervenir. Hein. Je ne mets pas l'ASE mal dans tous les trucs, mais...
Heureusement.
L'ASE,
d'ailleurs, ce n'est pas notre propos. Hein. On est
voilà.
Vraiment... Voilà.
Mais par exemple, vous voyez, l'ASE, comme dans mon cas, moi, je parle au nom de toutes les personnes qui sont dans mon cas, qui ont subi des placements abusifs, ils détruisent des familles entières. Parce qu'il faut savoir que les enfants placés de la DAS, hein, il y a un enfant sur deux qui finit SDF, qui n'a rien. Pas de diplôme, pas de travail, rien. Quand vous voyez les articles de l'ASE dire « Nous sommes là, nous avons une mission de protection pour le bien-être de l'enfant », mais dans mon cas actuel, je ne vois pas où est le bien-être de l'enfant. C'est un enfant qui est en souffrance, qui va mal, qui se mutile sans arrêt, qui a des problèmes psychologiques. Je ne vois pas où... Enfin, voyez,
bah là, malheureusement, c'est votre vérité à vous. Hein. Alors, le prénom n'est pas Céline, mais Séverine. Séverine, vous êtes là ?
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Séverine, bienvenue à la Libre Antenne.
Merci de me donner la parole.
Bah, merci de votre appel. Dites-nous,
voilà, moi j'écoute régulièrement votre émission. Je l'ai prise un peu en cours. J'arrivais à la maison et j'ai entendu le témoignage de Solange qui a eu une résonance en moi qui a fait écho par rapport à ce que j'ai pu vivre avec ma fille. Et ce soir, je voulais témoigner de. Je voulais dire un peu ce que j'avais vécu et surtout lui dire que. Il ne fallait pas qu'elle coupe le contact avec ses enfants, que c'était évidemment primordial, qu'aujourd'hui il y a une décision de justice, que c'est compliqué qu'elle les voit, je ne sais pas, une heure et demie, peut-être un peu plus par mois, qu'il faut profiter de ces instants, même si c'est toujours court, mais qu'elle puisse continuer à les appeler.
Bien sûr.
Voilà, être en contact avec les enfants, et puis voilà, ne pas couper le lien. S'aider, enfin se faire aider. Alors l'avocat c'est une chose, mais pas que. Il y a des associations qui sont là pour aider les femmes, les familles qui sont comme ça.
Les enfants. C'est ce qui vous est arrivé.
Les enfants évidemment qui sont évidemment des victimes à part entière. Et ça, moi j'insiste sur oui. le fait que ces enfants. Elles n'ont rien demandé, mais elles sont là et qu'elles sont victimes, évidemment qu'elles ont besoin d'un soutien psychologique, mais des fois, parfois, c'est pas toujours évident par rapport à l'âge des enfants, par rapport à la situation aussi. Est-ce que les enfants veulent parler ? Enfin, voilà, mais en tout cas, voilà, qu'elles puissent être en lien toujours avec ses enfants.
Séverine,
leur
comment dire, ça
leur écrire.
Comment ça s'est passé pour vous ? Parce que vous l'avez
comment
vécu.
Comment ça s'est passé pour moi ? Voilà, moi j'ai été victime de mon premier mari qui a été violent. Alors au début c'était plus des violences psychologiques.
Ouais.
Après ça a dévié un petit peu. Je suis rapidement partie avec mes deux filles. Mmh. Donc ma première avait 3 ans. Ma petite avait 8 mois, donc voilà, j'ai demandé rapidement le divorce.
Ouais, ouais.
Et donc, quand on divorce, on se dit, ça y est, ça va être fini, c'est terminé. Mais finalement, c'est pas fini du tout. C'est presque encore plus, je sais pas comment dire, pas dramatique, mais il se porte pas qu'on sépare. Et quand on a des enfants, effectivement, les enfants sont... cet enjeu entre le père et la mère, c'est insupportable parce que effectivement c'est les enfants qui payent. On cherche à faire du mal à l'autre parent en s'appuyant, se servant des enfants.
On instrumentalise les
voilà,
enfants.
Tout à fait. Voilà. Et donc moi j'ai eu plusieurs fois et plusieurs fois il y a eu des violences sur mes filles, des violences physiques.
Ah oui.
J'ai alerté les services sociaux, j'ai alerté la police.
Et c'était les enfants, c'était vos filles qui
ouais, qui mes le signalaient. Qui avaient à l'époque 7 et 9 ans, elles ont 2 ans et demi d'écart.
Oui, d'accord.
Voilà, donc il y a eu des violences, on n'a pas reconnu ces violences, on
incroyable.
A dit Madame Machin, elle est angoissée, elle est fragile, etc. Monsieur Alfonso, donc vous allez faire une thérapie familiale et tout va rentrer dans l'ordre. Mais ça se passe pas comme ça avec ce type d'individu qui est... Même si c'est, le terme est un peu pas galvaudé, mais on parle beaucoup aujourd'hui du pervers narcissique, mais ce sont des gens qui sont psychologiquement très forts et qui mènent en bateau tous les services, enfin qu'il y a en face. Enfin, voilà, il a pris un avocat encore plus pervers que lui. Et quand j'ai fait constater au bout d'une semaine les maltraitances, enfin les coups de ceinture sur les cuisses, il a été dit que non, elles étaient tombées dans l'escalier. Enfin voilà, plein de choses comme ça qui font que en face on a la justice. L'ASE, pour ne pas la nommer, qui ne répond pas, elle est là sans être là, voilà. Et donc plusieurs fois, évidemment, moi à chaque fois j'ai pris un avocat qui m'avait dit, vous savez madame, malheureusement, s'il n'y a pas de, vos filles, elles sont bien habillées, elles n'ont pas de cernes sous les yeux, s'il n'y a pas de si,
enfin, elles ont quand même
s'il y a pas une qui saute du balcon ou bien qui se coupe les veines, ben voilà, c'est difficile, ça bougera pas. Voilà. Et donc ça, c'était quand elles avaient 7 et 9 ans. Aujourd'hui,
donc en fait, si je comprends bien, parce que je me contiens,
oui.
Donc un enfant qui a des traces de
oui.
coups, c'est
oui.
pas suffisant.
Non.
D'accord.
Constaté par un médecin, par en mon
plus.
Médecin traitant. Hein.
D'accord.
Vous entendez bien, enfin.
Oui, j'entends.
J'ai été récupérée, j'ai fait tout. Pour... Les filles m'ont dit, la plus grande m'a dit au téléphone, maman, on a reçu des coups de ceinture par papa,
incroyable.
Parce qu'on avait crié un peu fort. Mmh. Il s'est énervé, il est allé chercher la ceinture. Enfin, voilà. J'ai récupéré mes filles au bout d'une semaine de vacances scolaires sous les conseils de mon avocat en disant essayez de les récupérer au plus tôt. Faites constater par le médecin. On fait constater par le médecin. Ça passe, je prends un avocat, ça passe au tribunal. Et la juge qui vous dit madame, vous êtes angoissée, monsieur, vous avez le sang chaud. Et, enfin voilà, je me répète, mais c'est. Enfin,
ouais.
Ça doit
c'est
sortir dans le fond de ma voix, mais c'est tellement.
Ouais.
C'est terrible de ne
ah
pas
ouais,
être
ouais,
entendu. Ouais. Mais tout ça pour vous dire, j'essaye de faire à court parce que voilà, je ne veux pas monopoliser l'antenne. Mais voilà, donc ça, plusieurs fois, je l'ai fait.
Donc concrètement.
Je n'ai pas été entendue.
Ouais.
Aujourd'hui, mes filles, la plus grande a 19 ans, la petite a 16 ans. L'année dernière, elle est partie en vacances avec son père.
Ah, quand même.
Ouais.
Elle continue.
La grande n'y allait plus, mais la petite, elle y allait encore.
Ouais, d'accord.
En vacances, en Corse. Chez sa grand-mère paternelle avec son papa. Et les vacances ne se sont pas bien passées. Il y a eu de la violence verbale, de la maltraitance, mais il y a eu aussi de la violence physique. Voilà, donc
alors,
c'est elle a fini par le dire.
Oui, mais pour essayer de comprendre, hein, je dis le mais, mais
oui.
le lien avec Solange... Vos filles ont été placées également ?
Oui, mais justement, c'est pour ça que j'essaye de faire vite.
Bien sûr.
D'être assez brève, mais je veux expliquer l'histoire.
Bien sûr.
Ma fille, donc, à l'issue de ces violences, elle m'en a parlé. Elle a été placée en famille d'accueil au mois de septembre. Elle est partie en famille d'accueil.
À 16 ans ?
À 16 ans. Elle est partie dans le nord de la France. Donc, on est venu la chercher le 3 septembre, chez moi. On m'a dit, on n'a pas le droit de vous donner l'adresse. On l'a mis en sécurité, par rapport à ce père qui pouvait être violent, détenteur d'armes, etc. Et si vous voulez, on a été rapidement entendu par la juge des enfants, qui a dit, et l'ASE était là, qui a dit, on place cet enfant pour la mettre en dehors du cercle familial, on
ouais.
la protège, etc., etc. Et si vous voulez, quand une enfant de 16 ans dénonce les faits, elle a été entendue par la police, sa sœur également l'a été, enfin, etc., etc., et qu'on, ouais, elle comprend pas ce qui se passe. Elle dit, je dis, papa me violente, et je pars. Et il lui avait toujours dit, si un jour tu parles, tu partiras en famille d'accueil. Et ce qui s'est passé réellement, c'est qu'elle a parlé, et elle est partie en famille d'accueil. Et qu'au bout du compte, voilà, donc 15 jours, très rapidement, 15 jours après, vous passez au tribunal et on vous dit, bah écoutez, c'est compliqué, effectivement, il y a de la violence du côté du père, mais on laisse l'enquête de police agir, etc. Donc
oui.
on n'a pas encore, si vous voulez, en plus tout est cloisonné au niveau de la justice. C'est ça qui est
voilà.
terrible. C'est que je dis, mais moi j'ai alerté en 2010, en 2013, j'ai alerté. On m'a dit, mais voilà, vous êtes, mais non, mais on n'est pas là pour cette histoire-là, madame. Je lui dis, mais ma fille a reçu des coups. On a essayé de l'étouffer avec un coussin, etc. Et on me dit, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais voilà, donc c'est très, très compliqué. Et
ouais,
vous voyez
compliqué.
Votre enfant,
ouais.
la juge décide que vous devez voir votre enfant à raison d'une heure et demie par mois dans un milieu, enfin dans un centre
pour
fermé
la protéger,
avec des psychologues qui
ouais.
vous écoutent.
Ouais.
Et l'enfant qui mange plus, qui dort plus, qui
ouais.
qui comprend pas ce qui se passe, qui elle était en famille d'accueil à Beauvais, qui prend des trains et qui le samedi matin sonne en bas de chez vous en disant maman je suis là, je dis mais Stella tu peux pas revenir, t'as pas le droit de revenir.
Mmh.
Et vous comprenez, enfin c'est très très compliqué. Et l'ASE qui dit bah non c'est comme ça. Vous expliquez que dans la famille d'accueil, c'est un peu moyen. Il y a des petits trucs qui sont un peu, qui peuvent, comment dire, heurté ma fille, où il y a un peu des choses pas claires. Voilà. Et on vous dit, l'ASE, l'éducateur de l'ASE qui vous répond, votre fille est une menteuse, et vous, madame, vous voulez tellement tout faire pour récupérer votre fille, que vous êtes prête à tout et à écouter les mensonges de votre enfant. Voilà. Et ça, quand vous entendez ça, c'est inconcevable. Enfin,
oui, c'est compliqué.
C'est inentendable. C'est... Et votre fille qui dit, finalement, maman, si j'avais rien dit, fin août, je serais toujours là. Je serais avec toi, chez toi. Et puis, finalement, j'aurais pas dû parler. Et comment vous pouvez expliquer ça à un enfant, enfin un enfant, un ado, une ado, mais comment vous arrivez à lui dire, si, il fallait parler, c'est bien parce que tu as stoppé, tu as dit des choses, tu as été entendu par la police. Oui. Et voilà, mais bon, tout ça pour dire que c'est important de toujours, même si elle les voit qu'une heure et demie par mois.
Alors justement, Solange.
De maintenir le contact.
Solange, est-ce que vous avez des questions à poser à Séverine par rapport à ce
Non, mais du coup, à rapport à ce qu'elle a dit, ça me touche aussi, son histoire. Mais
c'est terrible.
C'est exactement ce que Tommy, on lui dit. Quand Tommy dit qu'il se sent mal et qu'il se mutile, qu'il ne va pas bien, quand Tommy dit que dans le foyer, ça se passe mal, il est mal parlé par les éducateurs, tout ça, on traite Tommy de menteur. Mon fils est un gros menteur auprès des services. Ça, les éducateurs savent bien le dire. Oui, effectivement, je rejoins ce qu'elle disait parce que voilà, ça, ils savent bien dire que nos enfants, c'est les pires menteurs du monde. Ils veulent pas entendre quand un enfant est en souffrance. Vous voyez le cas de la dame, il y a eu de la violence avec le père et ça n'a pas été traité aussitôt. Moi, j'ai été frappée par mon mari, mon ex-conjoint, et là, par contre, on n'a pas hésité à m'enlever les quatre. Et je tiens aussi à préciser que j'ai été quand même 2 ans aveugle des deux yeux.
Alors,
donc, c'est-à-dire que ma fille Nolwenn, elle avait vu moi quand elle a été placée. Et visuellement, je la voyais à mon domicile, il venait toutes les semaines.
Alors, malheureusement, j'ai le mauvais rôle de la maîtresse du temps. Malheureusement, vos histoires sont aussi terribles l'une que l'autre. Vraiment, j'espère que vous arriverez à retrouver vos enfants. J'espère que vous arriverez autant l'une que l'autre à trouver des solutions. On va vous laisser toutes les deux continuer à échanger parce que je pense que vous avez énormément de choses à vous dire, beaucoup de passerelles possibles et certainement beaucoup de soutien autant l'une que pour l'autre. Donc vraiment un grand, grand merci de votre témoignage et nous, on vous souhaite le meilleur et surtout, tenez-nous au courant s'il vous plaît.
Problème, j'y manquerai pas.
Merci Solange, merci Séverine, bon courage.
Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Votre fidélité si vous nous rejoignez dans la libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble encore pour une petite heure et sans transition, nous accueillons Myriam. Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci de m'accueillir.
C'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive Myriam?
En fait, moi je vous passe un petit coup de fil parce que je voulais témoigner. Je voulais témoigner sur les bienfaits des associations comme la Ligue contre le cancer. En fait, j'ai eu un cancer en 2019, un cancer du sein. Et j'ai eu la chance de participer à des associations. Et du coup, ça m'a changé la vie, en fait.
Ah bah, je parlais de bienveillance en début d'émission. Ouais.
Oui, on est absolument dans le sujet. Alors, en fait, au départ, quand j'ai appris que j'avais un cancer, quand je suis partie dans ce parcours de soins, personne ne m'a conseillé d'aller dans une association. Personne. Et j'ai vu des affiches. Évidemment, il y a plein d'affiches sur la Ligue, notamment. Ouais. Et plein d'affiches. Et dans les lieux de soins, mais on les lit, mais voilà, sans plus. Et en plus, je n'avais pas envie d'y aller. parce que je ne voulais pas rencontrer des gens malades. Je ne voulais pas rencontrer des gens moribonds. Je ne voulais pas ça. Et finalement, quelques mois après, je me suis inscrite à la Ligue. Et là, ça a été une vraie révélation. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on rencontre des gens qui sont dans notre situation. Et du coup, on se comprend.
Oui.
Et là, on est dans la bienveillance, on est dans le soutien, on est dans l'empathie, on est dans l'échange. On est dans les conseils, dans des conseils d'un acupuncteur qui travaille avec les gens qui ont eu des soucis de chimio, avec des kinés spécialisés dans le sein.
Oui.
Enfin, ce sont des échanges. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que y a notre entourage. Notre entourage, il est dévasté.
Ça va, je vous sens encore ému. Hein.
Ma mère a perdu 10 kilos.
Oui.
L'entourage est dévasté. Et en fait, le fait de se retrouver avec des gens qui sont dans notre situation, c'est super parce qu'on échange avec eux. Et du coup, ça nous permet de soulager, en fait, l'entourage et de soulager les amis et les copains parce qu'ils sont dans une maladresse totale. Ils sont complètement à côté de la plaque. Le cancer, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils ne vont pas employer les bons mots. Et ils vont nous dire des conneries. Et ce sera...
Bah oui, je comprends. Je comprends.
Et moi, je me suis fâchée. Je me suis fâchée avec des gens parce qu'ils étaient maladroits. Et dans mon état, je n'avais pas envie d'entendre des gens maladroits.
Et pourtant, ils étaient dans cette bienveillance. C'est-à-dire que la maladresse, c'est comme vous l'avez tellement bien résumé, c'est-à-dire ils ne sont pas passés par cette épreuve,
oui.
Mais malgré tout, voilà, on a envie de faire le maximum pour dire on est avec vous, on est avec toi, on est à tes côtés.
Mais ils savent pas. Oui, mais ils savent pas.
Oui.
Ils savent pas. Ils s'y prennent tellement mal. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'être dans une association, parce que là, on va rencontrer des copains de cancer. Et là, avec les copains de cancer, on va parler de nos trucs. On va parler de nos cancers, on va parler de nos histoires. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout des gros moments de rigolade. C'est que ouais, on sait à quel point la vie est précieuse.
Et courte.
Et courte.
Ouais.
Et ce sont des gros moments de rigolade. Mais je suis partie avec avec trois copines... pour aller ramer, parce que je faisais partie d'une association qui s'appelait les Ramdames, et on faisait du Dragon Boat, et on est parti ramer, et là, c'est de la franche rigolade, parce qu'on n'a plus de filtre. On n'a plus de filtre entre les copines, on est authentique.
Après, ce qui est intéressant dans votre témoignage, Myriam, c'est que vous avez décidé de... pas d'accepter, ce n'est pas ça, mais d'être... lucide, réaliste. Mais quand on est dans le déni et qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler tous les jours que la maladie est là, c'est vrai qu'on peut faire un rejet total. Donc, votre proposition, elle est excellente.
Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a des traitements. On ne peut pas être dans le déni. Alors, moi, j'ai de la chance parce que le mien, il n'était pas trop méchant. Mais... Et j'ai pas eu de chimio et j'ai un traitement qui me rappelle tous les jours que je dois faire gaffe et on est suivi en permanence. Tous les 6 mois on a la trouille parce que on nous fait des examens et puis on trouve un truc bizarre et on doit repartir dans des examens. Il y a encore une semaine je pensais que j'avais un autre cancer.
Oui.
Mais
qui c'est qui vous a conseillé de vous inscrire dans une association?
Eh bien, justement, personne.
Ah.
Personne. Dans mon parcours de soins, personne ne m'a conseillé de m'inscrire. Et ça, c'est une erreur, mais fondamentale. Mon oncologue m'a dit, mais non, madame, vous allez bien. Ça ne sert à rien d'aller dans une association. Mais c'est une bête. Et c'est ce que je dis à tous mes copains aujourd'hui. Je leur dis, mais si vous apprenez, si quelqu'un autour de vous vous apprend que cette personne a un cancer, aller dans une association. à aller dans une association. C'est vraiment...
Donc vous, Myriam, c'était la Ligue contre le cancer ?
Ouais, c'était la Ligue contre le cancer.
Alors concrètement, comment ça se passe ? J'apprends que j'ai un cancer du sein ou autre. Je contacte l'association la plus proche de ma région.
Bah ouais, là en l'occurrence, oui, la Ligue contre le cancer sur oui. Et on a de la chance parce que en région parisienne, moi je suis dans le 78 et ils sont hyper dynamiques. Mmh. Donc on a vraiment beaucoup de chance parce que nous ils sont hyper dynamiques. J'ai la maman d'une copine qui a eu un cancer à Limoges et à Limoges il y avait beaucoup moins d'activité. Mais donc nous on est vraiment très chanceux. Mais il y a plein d'associations. Il y a la Note Rose, moi j'en fais pas partie, mais la Note Rose, il y a les Ramdam, il y a plein d'associations. Il faut absolument chercher.
D'accord.
Il faut absolument chercher et ne pas s'isoler. C'est surtout
ça. Oui, c'est surtout ça, en fait. Absolument.
Ouais.
Je pense qu'en fait, vous avez raison. C'est-à-dire qu'à travers ces associations, c'est surtout une façon aussi de penser à autre chose et de ne pas être auto-centré sur la maladie qui, de toute façon, à partir du moment où on a le moral qui est au taquet, vraiment, ça fait partie également, je dirais, des remèdes, entre guillemets, des soins que l'on peut s'apporter pour pouvoir supporter la maladie. Est-ce que vous étiez mélangée en termes de cancer ?
Est-ce que,
D'accord.
Ouais. Ouais.
Donc c'est pas uniquement ceux qui ont un cancer du sein ensemble.
Ouais. Oui, il y a certaines assos où sont des cancers qui sont des cancers gynéco où là bon c'est très ciblé.
Par silo.
Mais pour la ligue là vraiment. On a des copains qui ont des tout types de cancers.
D'accord.
Et quand vous parlez d'énergie, on comprend qu'il faut garder son énergie et que l'énergie elle est vitale et qu'on a besoin de notre énergie et c'est ce que je disais à ma fille parce que j'ai deux filles. Et j'ai eu mon cancer avec ma fille, quand ma fille était ado. Et en fait, je lui ai dit que finalement, elle avait eu beaucoup de chance, celle-ci, parce que la première, elle a eu une éducation vachement stricte. Et la deuxième, elle a eu une éducation avec une maman qui avait un cancer. Et là, c'était carpe diem. Je lui disais, mais chérie, mais profite de la vie. Mm. Profite. Et en fait, je me polluais plus. En fait, on ne se pollue plus avec des broutilles. On sait que l'énergie, elle est capitale. Moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue. C'est l'énergie. Il y a deux mots. Il y a énergie et carpe diem. Enfin, trois. Mmh. Énergie et carpe diem.
Myriam, quel type d'activité est-ce que vous partagez avec les autres personnes ?
De la gym.
D'accord.
De la gym. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que c'est vraiment... C'est la cour d'école, quoi. C'est hyper ludique. Et puis, bon, on a une prof aussi qui nous aide et qui est vraiment chouette. J'ai ramé aussi pendant 2 ans.
Ah oui, c'est ce que vous nous disiez. Donc, du dragon...
Ouais, du dragon boat.
Dragon boat, OK.
Voilà, on était une petite vingtaine sur un bateau. Mmh. Et il y a plein d'activités avec la Ligue. Alors moi, il y a plein d'activités que je n'ai pas faites parce que je ne me sentais pas légitime pour les faire. Parce que je n'ai pas eu de chimio, donc je n'ai pas perdu mes cheveux. Donc je n'ai pas fait de soins socio-esthétiques, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a des aides de retour à l'emploi, de confiance en soi. Enfin,
donc il y a vraiment une structure,
très, très riche. Soins de support.
Ouais.
Ce sont des soins de support qui sont très riches. C'est vraiment le conseil. En fait, voilà, mon appel, il est simple. Il est vraiment de dire, ne restez pas isolés. Allez, cherchez des associations. Et vraiment, c'est très gai. C'est très, très gai. C'est pas triste. Les cancéreux, ils sont pas tristes. On n'arrête pas de se marrer. On cherche vraiment à on est là pour se faire du bien. On est vraiment ensemble pour se faire du bien. Et là, avec la Ligue, par exemple, évidemment, on est tous d'univers hyper différents et on a fini par se créer un groupe de copains et on se voit en permanence en dehors de la Ligue, grâce à la Ligue. Mmh.
Mais c'est super.
Ouais, c'est super.
Avant de nous quitter, Myriam, j'avais une petite question très simple. Comment ça va ?
Ça va.
Ouais.
Ça va.
Bon. Forcément, hein, c'est important de savoir ce que ça vous a apporté et comment vous vous sentez aujourd'hui.
Bah, c'est énergie et carpe diem. Voilà. Et apprendre à... On a ces fichus examens tous les 6 mois. Mmh. Et enfin, en l'occurrence pour moi, parce qu'après, ça dépend des gens. Et apprendre à supporter le temps d'attente des examens. Ouais. Avec philosophie, parce qu'autrement, on vit une vie d'enfer. Donc voilà, j'ai appris ça.
Merci infiniment de votre appel.
Ben, merci beaucoup.
Merci de votre bienveillance.
Parce que je trouvais que c'était important de le dire, ça. Allez dans les associations, ne restez pas seul.
Et nous avons reçu d'ailleurs un SMS qui confirme et qui vient en plus appuyer ce que vous nous partagez. Alors, il n'est pas signé, hein, je ne sais pas de qui c'est, mais je vais vous le lire. Je le lis en même temps que vous, hein. Enfin, je le découvre en même temps. Je confirme qu'il ne faut pas s'isoler. Je suis en rémission d'un cancer des ovaires diagnostiqué en 2016 et on a besoin d'échanger avec des personnes qui savent ce qu'est le cancer. Il est fondamental de ne pas s'isoler. Ma mère est dans le déni. Tôt, donc j'imagine que ça devait être total. Le SMS n'est pas complet, mais voilà, nous avons également un autre témoignage d'une auditrice qui confirme que c'est important de, un, ne pas s'isoler, et deux, donc de Myriam qui nous dit d'aller s'inscrire dans des associations pour pouvoir supporter, en tout cas, et s'amuser,
ouais,
même, manifestement.
C'est pas triste.
Voilà, s'amuser, c'est le terme.
Il faut impérativement entendre ça, parce que tous nos copains là qui se sont inscrits dans le groupe au départ ne voulaient pas. On a un copain qui a fait une récidive, il a vécu son premier cancer tout seul. Et il nous a dit mais quelle bêtise, pourquoi je suis restée isolée, pourquoi je ne me suis pas inscrite. Et ça change la vie.
Merci Myriam.
Ça la rend plus douce. Merci beaucoup.
Vraiment, courage pour la suite et vraiment merci infiniment de votre appel.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Et nous allons tout de suite écouter le témoignage de Tina. Bonsoir Tina.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci beaucoup. Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive Tina ?
Alors, j'ai eu Sabine au mois de juin.
Oui.
Pour lui exposer ma situation. Moi j'ai emménagé, je vais résumer très 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 brièvement. J'ai emménagé chez mon papa et ma maman, chez mes parents le fin mars, parce que maman a un Alzheimer assez avancé et mon père a 90 ans.
D'accord.
Donc ça commençait à être vraiment tendu.
Ouais.
Et puis donc il y a eu une espèce de lune de miel de avril, mai, juin, voilà, où ils étaient contents que je sois là, où je pouvais m'occuper de maman tranquillement.
De votre papa peut-être aussi un peu ?
Ben, lui, il est très fier, hein, très c'est
autonome,
compliqué, quoi.
Donc. Il est
autonome. Mmh. Et les caractères, c'est un homme né dans les années 30, donc pas facile du
affirmé.
Tout.
Affirmé, un caractère affirmé, dis-le.
C'est le prénom, affirmé, enfin bon, bref. On va dire ça parce qu'on est de bonne humeur et qu'on est gentil, mais bon, bref. Et donc là, ça se corse beaucoup, ça s'est pas mal dégradé depuis, on va dire, 15 jours, 3 semaines. Donc lui met beaucoup de pression pour qu'on place maman. Donc il n'y a pas de place, hein. J'habite en Bretagne, il y a très très peu de place, enfin, voire pas du tout en fait. Moi j'ai proposé qu'on fasse venir des auxiliaires, qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de maman, il ne veut rien entendre. Moi quand je m'occupe de ma mère, je m'occupe d'elle le mardi matin, le vendredi matin, parce qu'elle va dans un accueil de jour.
D'accord.
Donc c'est moi qui m'en occupe parce que lui il n'a pas de patience et que... Bah, c'est vrai que c'est un peu un enfant de 3 ans, hein, donc faut détourner l'attention quand tout d'un coup elle décide de faire autre chose. Enfin bon, je la douche, et tout ça, je la prépare et ça se passe. Moi, je m'entends très bien avec elle, hein, elle est toute mignonne. J'ai pas de problème avec son Alzheimer. Moi, j'ai accepté la situation. Je suis venue parce que j'avais choisi. Hein, y a pas de
ouais.
Voilà.
Ouais,
sauf
c'est
que
tout
là,
à
ça se corse. Je sais pas, c'est peut-être la culpabilité, peut-être une culpabilité inversée qui fait que j'aurais été plus mal de pas le faire, je pense, que de le faire, je sais pas.
Mais en tout cas, voilà, ça correspond à ce que vous vouliez, puisque c'est
absolument.
Assumé, voilà. Donc,
oui, tout à fait.
Voilà,
en tout cas, je me suis un peu posé la question pendant le temps, mais à partir du moment où j'ai décidé de le faire, je l'ai fait,
ouais.
Quoi. Mon frère habite le Maroc, donc il est pas beaucoup là, il est présent au téléphone, mais il peut pas faire grand-chose.
Ouais.
Et là, ça se corse depuis 2-3 semaines. C'est vraiment difficile. Alors, j'avais proposé à papa de louer une maison. Moi, j'habite dans le Morbihan, et de louer une maison carrément sur les bords de mer pour emmener maman et mes filles, voilà, pour que lui puisse se reposer.
Oui.
Donc au début, il a dit oui, puis après, il a dit non. Et puis il a dit redit oui, puis non. Maman a dit finalement, dit non, puis oui. Mais enfin bon, maman, quand elle dit oui ou non, on ne sait jamais trop, bref. J'ai tout le dossier prêt pour le mandat de protection future qu'ils avaient signé il y a quelques mois chez le notaire. J'ai plus qu'à aller au greffe avec maman, parce que le médecin expert a dit qu'elle pouvait se déplacer. Donc j'ai dit à papa, il faudrait qu'on se voit tous les trois et qu'on puisse en dire à maman, voilà, on va entériner la décision du mandat auprès du greffe.
D'accord.
Donc ça fait une semaine que je lui dis, il ne veut pas le faire.
Ouais.
Là, voilà, tout ce que je propose, ça ne va pas. Il n'arrête pas de me dire, de toute façon, quand je suis tout seul avec ta mère, c'est là où ça va le mieux. Voilà. Et donc, je me sens, je dis, bon, ok, donc je suis une femme de 54 ans, voilà, je suis assez posée, j'ai du recul. Mais là, j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire. Bon, placer maman, ça me semble bon, une décision assez sage, mais enfin, il n'y a pas de place. Donc voilà, je suis dans une situation où il dit non à peu près à tout. Quand je m'occupe de maman, ça le soulage, mais en même temps, ça l'agace. Parce que, je ne sais pas, parce que j'ai une relation avec elle, effectivement, quand même assez proche, assez fusionnelle. Bon, c'est un peu un mot qu'on met à toutes les sauces, mais en tout cas, j'ai une relation très affective,
ouais, ça se passe bien.
Voilà, ouais, affectueuse, voilà. Voilà, ça se passe bien.
Ouais.
Elle est assez mignonne, elle est assez docile.
Mmh.
Et, mais lui, il a un caractère difficile, et ça, ce n'est pas nouveau. Voilà, éducation vraiment quand même à la dure, donc on est obligé quand même de le recadrer quand même de temps en temps, parce que voilà, il est dur, quoi. Il est dur, il est pas gentil, des fois il est vraiment plus que maladroit, voire vraiment pas, voilà, entre le critique, leur proche. Et donc là, je l'ai recadré quand même 2-3 fois en lui disant que j'étais quand même là pour les aider, hein, que je suis pas là pour me faire non plus marcher dessus.
Tina, et donc voilà. Est-ce que comme c'est une personne d'un caractère assez affirmé, hein, votre papa, est-ce que vous l'avez déjà provoqué? Parce que parfois les personnes affirmées comme ça, elles aiment bien qu'on les provoque en lui disant que éventuellement vous pensiez le placer lui.
Pourquoi pas? Ça peut être une idée assez... Non, l'autre jour, je l'ai un peu recadré, parce qu'effectivement, il a eu des propos extrêmement déplacés sur mon frère, et à qui il a dit vraiment... Enfin, il parlait de lui en disant des choses extrêmement déplacées, et là, je l'ai recadré. Et je lui ai dit, là, je pense que si tu veux des rapports un peu sains avec mon frère, il va falloir que tu t'excuses une bonne fois, parce que vraiment, dans la petite enfance de mon frère, ça a été assez... Il y a eu des événements épouvantables. Bref. Donc, il l'a plus ou moins fait, quand même, en disant « ta sœur m'a dit que… » Mais bon, bref. Et je ne regrette pas l'éducation que je vous ai donnée. Et là-dessus, je l'ai recadré un peu violemment aussi, en disant « bah écoute, c'est bien dommage que tu regrettes pas, parce que franchement, t'as une éducation où les mots bienveillance, compassion, écoute, empathie, zéro vocabulaire, quoi, à ce niveau-là. Et vis-à-vis de maman, il y a un peu de ça, quoi. Des fois, je suis fascinée par ça, quoi. Mais le manque d'empathie, ça me laisse, ça me vrille le cœur. Hein. Après, elle a choisi.
Elle a 90 ans aujourd'hui. Hein.
Oui, bah oui. Oui, je sais bien.
Vous
elle a choisi.
Et puis vous avez raison quand vous dites qu'aujourd'hui vous vous occupez presque. Enfin, il a 90 ans, vous avez le sentiment d'être avec un enfant de 3 ans. Est-ce que vous avez.
Bah, les deux, ils ont un peu 3 ans. Lui, c'est un enfant capricieux de l'âge de 5 ans et fils unique, et voilà. Et lui et elle, bon, bah, c'est une enfant de 3 ans parce que c'est. L'Alzheimer fait que, voilà, après, elle a des pertes d'autonomie. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que des fois, j'essaie d'être discrète et puis je ne suis pas non plus formée. Hein,
c'est un vaste sujet, ça encore. Hein, la formation des aidants, parce que finalement, vous êtes une aidante, là, pour le moment.
Bah, c'est ça. Et en fait, dans une situation où j'ai l'impression que quoi que je propose, c'est non. Il ne veut pas d'aide parce qu'il y a quand même une grande chance, c'est qu'il y a quand même des moyens. Donc, on peut faire venir du personnel qui pourrait être là tous les jours pour maman, mais ce n'est pas possible. Moi, je propose de faire les repas parce que moi, ça ne me dérange pas. Alors, oui. J'habite pas dans leur maison. Hein.
Voilà, j'ai une partie vous poser de la question.
Maison qui est indépendante.
Non. D'accord.
J'habite la première partie de la maison. Ils habitent D'accord. une grande longère et moi, j'habite la première partie.
D'accord.
Donc, j'ai quand même une autonomie, voilà, je cuisine. Non, je ne partage pas ma cuisine, Dieu merci.
Tina, qu'est-ce qu'il vous répond lorsque vous lui demandez d'être plus cool, je vais dire le mot comme ça,
alors il est dans, soit il est dans il dit rien, soit il dit mais tu peux pas comprendre, mon monde s'effondre. Donc je lui ai expliqué que on peut avoir un monde qui s'effondre et accepter la situation, mettre aussi de la légèreté dans ça, parce que moi, j'ai un rapport assez léger avec maman, elle peut être très drôle, puis des fois, elle fait des réflexions, vraiment. L'autre jour, elle me dit « Pourquoi mamie vient pas manger avec nous ?» Je lui dis « Bah, parce qu'elle est au cimetière, maman, tu sais. » Elle me dit « Bah, c'est pas une raison. » Je trouve qu'il y a vraiment des moments drôles, en fait. Enfin, il y a des moments qui peuvent être drôles, quoi.
Mmh.
Et... Mais parce que c'est un égocentrique et qu'il n'est pas au centre de l'attention aussi. Hein. Il y a un peu de ça. Hein,
vous pensez vraiment qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interprétations au-delà de... Est-ce qu'on peut entendre qu'il peut effectivement souffrir de voir la femme qu'il a aimée face à lui ne plus être la même aussi?
Oui, je pense tout à fait qu'on peut souffrir. Je pense tout à fait qu'on peut souffrir. Mais après, on peut aussi arrêter la surenchère de qui souffle plus, en fait.
Ah, ça, c'est encore autre chose, bien sûr.
Bah oui.
C'est encore autre chose.
Parce que moi, je peux y aller aussi. Moi, j'ai perdu ma maman, je perds ma maman, j'ai plus ma maman. Enfin, on peut y aller, quoi, dans cette espèce d'escalade.
Quel est celui qui souffre le plus des deux, quoi?
Bah, c'est un peu... Moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans du tout. Mais j'entends ce que vous dites. J'entends que... Mais par exemple, il m'a dit, oui, de toute façon, je sais, je fais une dépression. Ok, j'entends. Est-ce que tu veux que j'appelle le médecin? Et moi, j'ai appelé le médecin, je lui dis, est-ce que vous pensez que papa, il pourrait prendre un petit antidépresseur? Il dit, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai appelé France Alzheimer, il y a des groupes de parole. Il ne veut rien entendre, en fait. C'est-à-dire, il exprime sa souffrance, et ça, j'entends, mais à des solutions que je peux lui proposer, comme France Alzheimer, des groupes de parole, des psychologues, il y a les psychologues du CCAS qui sont passés des fois, ils ont un médecin traitant qui est super. Et j'ai dit, est-ce que tu veux prendre un antidépresseur le temps de placer maman? Non, ça va pas, de toute façon ça sert à rien, il a mal au dos, le doliprane ça sert à rien, enfin c'est un truc, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, quoi.
Bon,
le fais pas.
Je comprends que ce soit compliqué. Avant de passer à vous, hein, parce que forcément cette énergie que vous mobilisez pour vos parents, à un moment donné, il faut aussi que vous puissiez vous ressourcer. Mais on met de côté, on y reviendra un peu après. Maintenant, est-ce que vous lui avez déjà posé la question directement à votre père en lui demandant, j'entends tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu proposes, toi, papa? Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Vous voyez, que des questions ouvertes pour savoir, éventuellement, plutôt que d'être dans une forme d'injonction, hein, qui est finalement dans la bienveillance, comme on dit, dans l'amour également, avec ce sentiment de culpabilité que vous avez. Bon, mais est-ce que vous lui avez déjà posé la question de véritablement ce qu'il veut?
Alors, oui. Parce que là, alors en plus, il dit oui, je vais annuler les journées d'accueil de jour parce que ta mère ne va pas bien quand elle rentre. Et puis moi, quand elle va mal, je vais mal. Je dis mais qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que ces journées d'accueil de jour, c'était aussi pour que tu puisses te reposer, toi. Donc moi, j'arrête pas de lui proposer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, il y a c'est contradictoire. Ça peut être un truc le matin, j'en peux plus, il faut la placer. Non, je veux rester avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très compliqué. Donc moi, je suis tout à fait prête à être dans une vraie écoute, une écoute active de ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que... Ou alors, est-ce qu'il est en train de péter un câble aussi? Ça, c'est fort possible. Hein.
En tout cas, il l'a verbalisé. Il vous a dit, je suis en déprime ou en dépression. Il l'a verbalisé,
oui.
En tout cas.
Donc, oui,
pour quelqu'un qui est fort, pour un homme fort tel que vous le décrivez, ah, quand même, hein, il dit des choses. Vous dites qu'il manque d'empathie également. Et pourtant, il vous dit...
Oh là là.
Mais, et pourtant, il a l'air de comprendre ce qui se passe. Il est même en sympathie, puisqu'il vous dit, quand elle souffre, je souffre. C'est ce que vous venez de
non,
me dire.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Quand elle va mal, je vais mal.
Ouais, quand elle va
quand
mal,
elle
je
va
vais
bien,
mal.
Quand elle va bien, je vais
bah,
bien.
Oui. Donc, il est quand même... c'est une éponge, là. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout quand elle va mal, il n'a pas la paix pour pouvoir écrire dans son bureau tranquillement, en fait, je crois. Hein, c'est ça.
Aussi, par moments. Ouais, je reste convaincue que quand il la regarde et quand elle ne va pas bien, ça doit...
Il est démuni.
Voilà.
Je crois qu'il est démuni.
Mais oui, c'est ça. Oui, oui. Vous avez complètement raison. C'est comme ça que je le ressens aussi, à travers ce que vous nous dites. Un homme fort, affirmé, eh bien, voilà, ça ne va pas comme il aimerait. Et il doit forcément se sentir vraiment démuni, voire impuissant. Et ça, c'est terrible. Quand on est dans cette force comme ça.
Alors en plus, voilà, vous parlez d'un mot, un mot qui est fort dans notre histoire, impuissance, puisque nous, on est des enfants adoptés.
Mmh.
Et c'est mon père qui était stérile, en fait. Hein. Et pendant des années, dans l'histoire familiale, bon, là, on va la faire courte parce que, voilà.
Non, mais c'est
mais
passionnant.
Dans l'histoire familiale,
c'est passionnant.
Dans l'histoire familiale, en fait, à l'époque, c'était, il a caché à sa propre mère pendant des années que c'était lui qui était stérile. Et dans cette génération-là, un homme qui était stérile, c'était presque comme un homme impuissant, en fait.
Ah oui, je vois l'analogie, d'accord.
Ouais, il y avait un truc un peu comme ça.
Ouais.
Et ça a mis des années avant que le secret soit levé sur le fait que... et ma grand-mère, alors là, bon, l'épisode de ma grand-mère, il faudrait une émission de 4 heures parce que c'était pas triste. a su très très tard que c'était lui qui pouvait pas... Que son fils chéri et adoré n'avait pas pu, lui, faire des enfants. Bref. Donc, une histoire familiale, effectivement, a passé un peu lourdingue à ce niveau-là. Mais par contre, j'essaye de... Alors, j'entends que dans ce que vous dites, ça me fait cheminer vers un truc où je pense qu'il y a un truc que j'ai pas lâché, c'est que j'arrive pas à lui faire comprendre que s'il accepte la situation telle qu'elle est, il souffrira moins. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'amour, elle le regarde quand même avec amour, elle lui dit qu'elle l'aime,
ouais,
elle lui, dit, lui fait des bisous toute la journée, et que même s'il ne peut plus communiquer avec elle de façon cognitive comme avant, il y a quand même un moyen de communiquer
bien
par
sûr.
Le cœur.
Bien sûr.
Mais bon, là, je pense que si, quand je lui parle comme ça, il me prend pour une cinglée. Enfin, je ne comprends rien ce que je raconte.
Ou alors, il n'a pas envie de comprendre sur le moment. Mais ça doit cheminer également, vous voyez.
Oui, ça doit cheminer et peut-être que sa détresse, c'est qu'il n'arrive peut-être pas, effectivement, par ce canal-là. J'entends ce que vous dites. C'est qu'il doit se sentir aussi impuissant de pouvoir, effectivement, être dans le cœur et dans la gentillesse et dans l'empathie vraie et dans quelque chose de très authentique parce qu'ils ont un schéma de couple, hein, une pattern de couple, évidemment, depuis 58 ans, vous doutez bien qu'ils ont une façon de fonctionner... voilà, qui est bien huilé, on va dire.
Et,
hein,
Et cette maladie a été une rupture de pattern, justement, pour lui.
C'est vrai.
Pour eux, ouais.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc, il y a ça. Hein.
C'est
et
vrai.
Cette liberté de choix, sans vraie liberté de choix, en fait, il n'y a plus vraiment d'engagement. Donc là, c'est difficile pour lui de pouvoir avancer, de donner du sens de nouveau à leur couple, à sa vie, de... Oui, c'est pas... On peut comprendre.
Oui, et en même temps, moi, je pense que ce qui me fend le cœur, c'est qu'elle, je trouve qu'elle est... Elle est vraiment mignonne, elle est aimante, elle n'est pas agressive. Bon, des fois, elle peut être un peu délicate, mais elle n'est pas agressive globalement. Elle est très docile, elle est super mignonne. Et elle a de l'humour, parfois. Et je trouve qu'elle n'est pas difficile à aimer, je ne sais pas comment vous dire. Et ce qui me fait de la peine, vraiment, des fois, il lui parle hyper patient, cette femme. Quand elle pose évidemment 20 fois la même question, moi, je trouve ça pas très grave de lui répondre 20 fois, non. Et lui, il s'énerve. Mais enfin, je t'ai dit déjà, alors que... ou alors, mais enfin, je t'ai dit que la salière, c'était là. Mais la salière, elle sait même plus ce que c'est qu'une salière. Donc, des fois, ça me fend le cœur, quoi. Et je sens qu'il est quand même dans un truc où il a quand même beaucoup été comme ça, hein, depuis toujours. Il a quand même beaucoup voulu pour lui tout seul, et que là, ma présence, il est un peu ambivalent. Je pense d'un côté, ça l'aide, et d'un autre côté, ça lui casse les pieds, quoi. Je sais pas, il y a un truc...
Alors, à votre avis, pour quelle raison est-ce qu'éventuellement, ça lui casse les pieds ?
Parce qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. À un moment donné, nous, on a quitté le domicile parental avec mon frère. On était très jeunes. Mes parents vivaient à l'étranger. On a fait des études en France. On est revenu faire nos études en France. On était vraiment jeunes. Hein. Mmh. Et donc, après, à chaque fois qu'on revenait à la maison, lui vivait à l'étranger. Donc, on se retrouvait pas. Et au bout de, je sais pas, une semaine, il supporte pas grand-chose. Il a jamais pu supporter grand-chose. Hein. Il a un seuil de tolérance extrêmement bas, hein, cet homme, de toute façon.
Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt d'une nature indépendante.
Égoïste, c'est le mot, non, plus.
Ah, j'aurais dit indépendante. Okay. Ou alors... ouais, moi, j'aurais dit plutôt une nature indépendante. Et c'est en cela qu'en fait, ça réagit. Le fait que vous soyez là, peut-être que... il a, parce que manifestement, vraiment, vous l'avez dit, dans une écoute active... peut-être que, sans le vouloir, hein, de votre part, vous l'infantilisez.
Sûrement. Oui, oui, j'entends. Sûrement. Sûrement.
Mais sans vouloir, encore une fois. Moi, l'objectif, oui, c'est pas non, de vous dire arrêtez, Tina, arrêtez.
Je suis juste... Non, mais j'entends bien. J'entends tout à fait. Hein, j'entends tout à fait. C'est tout à fait possible que je sois dans... Et peut-être j'ai une présence... De toute façon, j'ai un caractère fort aussi, donc j'ai une présence... voilà, quand je suis dans la pièce, je suis dans la pièce. Je suis pas une petite souris. Voilà, je et là, par exemple, sur la demande de protection de maman, je prends toujours soin de vérifier avec lui qu'il est bien d'accord, que si, que ça, que mieux qu'autre chose. Là, il freine un peu des quais de fer. Et j'ai quand même un peu l'impression qu'il est dans l'évitement et qu'il veut pas prendre la décision, en fait. Parce qu'une fois que j'aurai la tutelle de maman, c'est moi qui vais la placer et qui vais prendre la décision, finalement.
Mmh. Je comprends. Vous voyez,
j'ai un peu l'impression d'être dans un rôle. Je me sens un peu manipulée quand même. Hein.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça vraiment
en fait, je trouve que c'est la façon de pas réagir, de pas agir, de pas acter les choses, mmh. de pas être dans le concret, de dire bon comment on fait comme ça, de façon logique, claire. Il est dans l'évitement quoi, il dit oui, il dit non, il dit je sais pas, il dit rien, il dit enfin c'est.
Vous voyez, je repensais au terme égoïste. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire égocentrisme que égoïsme.
Ah bah,
par rapport à votre papa. Vous voyez, c'est pas parce que l'on n'est pas bien. Donc, quand on n'est pas bien, finalement, la seule énergie que l'on a, qu'on va mobiliser, c'est pour soi. Donc, oui. Je dirais plus de l'égocentrisme que de l'égoïsme, vous voyez.
Oui, c'est vrai, je comprends ce que vous dites. J'entends. J'entends.
Et vous,
j'entends.
Et vous alors, Tina, toute cette énergie, justement, que vous mobilisez, à quel moment est-ce que vous vous... recentrer, vous vous ressourcer, parce que ça c'est important aussi.
Alors moi j'ai un métier artistique que j'adore, donc quand je travaille je suis ravie.
Qu'est-ce que vous faites?
Je suis chef de chœur, je dirige des chorales.
Ah.
Je forme des choristes et je suis prof de chant et je forme des choristes, des chorales et je suis prof de musique.
Super.
Et donc là c'est un peu la pause de l'été, donc j'ai annulé aussi un gros stage que je devais donner. D'abord parce que j'étais fatiguée et puis que je suis partie là tout début juillet faire un gros stage en Belgique. Je suis rentrée, c'était la catastrophe, ils étaient dans un état tous les deux. J'avais pas trouvé quelqu'un pour les aider, enfin bon, c'était la cata.
Ouais.
Donc là, je lève le pied déjà moi cet été, donc je reprends en septembre. Là, je vais à la plage beaucoup avec mes enfants. Ma deuxième fille qui est là, qui habite à Paris, elle, qui est avec moi, donc on passe du temps ensemble. Oui, c'est vrai que là, je suis un peu au nœud du sujet, là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une charge mentale assez forte en ce moment, en fait.
Ah oui, mais ça, je comprends.
J'arrive pas à trouver la bonne place pour pas me faire complètement happer. Et en même temps d'être quand même là et parce que
c'est pour ça.
Seuls.
Ouais, c'est pour ça que c'est très important. Alors, on va faire juste une toute petite pause si vous êtes d'accord, Tina, et on se retrouve après. À tout de suite.
Pour joindre Sana Blanger, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
Tina, merci. Merci infiniment de votre témoignage. Et comme tous les aidants, c'est vrai que c'est très, très important vraiment de se ressourcer. Donc, on était là-dessus sur, sur comment est-ce qu'on on pense à soi aussi pour refaire le plein d'énergie, pour pouvoir en donner à ceux qu'on aime hein, et ceux qu'on accompagne dans la douleur, dans cette ambiance, ce cacochyme finalement, hein, vraiment, ces personnes malades. Fragile.
Ouais, ça pose vraiment la question. Ça pose vraiment la question de la fin de vie, de l'accès. Par rapport à leur départ, je suis très claire là-dessus. Hein. Enfin, j'ai pas de désespoir. J'ai du chagrin. Je trouve que c'est le. Je suis vraiment dans au cœur de ce que, comment dire, d'un chemin que j'ai fait moi sur le plan psychologique, spirituel. Je suis dans une phase où je suis vraiment au cœur d'une épreuve et d'accepter l'épreuve telle qu'elle est, quoi.
Ouais.
Donc, mais c'est vrai que je sais plus par quel bout prendre les choses. Effectivement, de pas être trop là, mais de pas être pas là, mais de pas être.
Déjà, vous parliez de charge mentale. C'est en cela que je vous dis, c'est important que vous puissiez vraiment. Vous trouver un sas de décompression. Là, ce qui est intéressant dans ce que vous nous témoignez, nous partagez, c'est que depuis deux, trois semaines, ça devient un petit peu plus pesant pour vous. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi de façon endogène, hein, votre esprit, votre corps qui vous dit « Bon, là, peut-être qu'une petite pause, ça pourrait faire un peu de bien aussi. » Parce que c'est normal, c'est vraiment légitime de se sentir un peu fatigué. Bon, si ce n'est pas vous, qui s'occupe de vos parents après ?
Personne en fait, hein, parce que trouver des auxiliaires de vie, déjà papa n'en veut pas, donc voilà. Je sais pas ce qu'il veut, donc ça change tous les jours. Je pense que lui, il veut vraiment placer maman. Et moi, une fois que maman sera placée, je suis pas sûre de rester, en fait. Hein.
Après,
moi, je m'étais dit ça. Je m'étais dit ça, en fait. Je m'étais dit ça. Je vais venir pour faire la transition, installer maman ailleurs s'il faut. Et après, moi, je repars. Hein. Je vais pas.
Ouais.
Je vais pas rester. Non.
Donc là, ce serait d'aller voir un greffier et de. Vous vous sentez prête pour ça ?
Alors justement, c'est ma question. C'est aussi ma grande question. Étant donné que c'est tellement difficile à manœuvrer là en ce moment. Sur ce que papa veut, ce que veut pas, ce que maman veut, ce qu'il veut pas. Enfin, c'est très, je comprends rien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller me mettre la charge de ma mère ? Donc, c'est un mandat de protection future, ça veut dire que je deviens son représentant légal.
Oui.
Sur toutes les décisions à prendre.
Mmh.
Donc, ça va être encore. Il va y avoir des bras de fer de plus en plus, beaucoup plus durs finalement. Parce que là, moi, je peux me dire, bon, il se débrouille après tout, il se débrouille. Hein.
Alors, Tina, vous avez besoin de quoi en fait ? De quoi ou de qui ? Là, les auditeurs vous entendent, vous écoutent. Si nous pouvions vous aider, vous auriez besoin de quoi ou de qui ?
Moi, j'aurais besoin. Que papa accepte. C'est quelqu'un qui vienne à la maison, d'arriver à persuader mon père que quelqu'un vienne les aider le temps qu'on place maman, en fait. Voilà.
D'accord.
Parce que sur le fait de la placer, je pense que ça y est, je pense que ma décision, elle est plus un peu apaisée par rapport à ça, dans le sens où là, ça commence à. Elle fugue, enfin, ça commence à devenir. Elle met le bazar partout. Enfin, c'est.
Ouais, ce qui est important, c'est effectivement de plus penser à elle que par rapport à vous et comment vous vivez la situation.
Exactement.
Vous voyez, si ce prisme est plus par votre culpabilité, l'amour que vous pouvez avoir. Mais là, Là, c'est votre maman hein, qui est au cœur de, je dirais, du réacteur.
Et, absolument, absolument.
Et à qui il faut penser.
Absolument. Mmh. Absolument.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux
absolument.
Pour elle?
Ben, alors j'oscille, hein. Moi aussi j'oscille, hein. C'est-à-dire j'oscille entre la laisser chez elle avec de l'aide, parce que je peux tout à fait comprendre qu'un monsieur de 90 ans puisse pas, c'est aussi une veille pour lui permanente, et je comprends, hein.
Oui.
Pour moi aussi, et il faut qu'elle soit là dans un milieu sécurisé, elle est, il n'y a pratiquement plus de moments de lucidité, enfin c'est compliqué, hein. Donc, elle approche plus trop la cuisine. On a réussi à sécuriser la salle de bain et tout. Donc, parce que des fois, elle ouvre les robinets puis elle s'en va. Enfin bon, voilà. Donc, et de la placer dans un endroit où moi je puisse aller vérifier qu'elle est bien, quoi.
Oui.
Parce que ça me fend le cœur aussi. Hein. Enfin, il y a un endroit où ça me fend le cœur quand même.
Il y a un mot qui me vient en tête pour vous, Tina. C'est libérez-vous. Mais attention, quand je dis libérez-vous, ce n'est pas libérez-vous dans le sens débarrassez-vous. Hein.
C'est, oui, oui,
vous
oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Libérez-la, vous avez tout à fait raison.
Libérez-vous, Tina.
Vous avez, c'est le mot absolument, complètement juste. Que je suis prise dans entre mes obligations, ma culpabilité, ouais. L'envie d'être dans le soin, parce que j'aime prendre soin d'eux et d'elles, en fait.
Bien
hein.
sûr, bien
et,
sûr.
Ça ne me dérange pas, c'est pour ça que je suis venue. Et puis j'aime bien ça, j'aime bien leur faire plaisir, j'aime bien qu'ils soient bien, j'aime bien. Et en même temps, de voir de temps en temps, je me fais renvoyer dans mes 15 mètres, et peut-être à raison d'ailleurs, hein. Je suis perdue, en fait, je ne sais plus. Ben c'est exactement ça, oui. C'est ça. J'arrive plus à avoir une pensée claire. Et puis, je suis aussi spectatrice de leur relation de couple, finalement.
Bien sûr.
Parce que je suis observatrice de ça. Franchement, il y a des moments où ça m'indispose, mais vraiment. Alors, c'est. Bon. Parce que c'est vraiment des couples à l'ancienne, hein, donc. Je pense que je vois mes filles qui sont des suffragettes de 18 ans. Je pense qu'elles pourraient intervenir.
Autre chose aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous parlez de culpabilité et en même temps, vous nous avez dit que vous avez été adoptée par ce couple.
Oui.
Et si vous changez le mot culpabilité par reconnaissance?
Oui, oui. Mais je pense que c'est même... C'est de la reconnaissance, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est dedans de l'amour. Mais il y a quand même une loyauté qui n'est pas forcément super bien placée, dans le sens où il y a... Je pense que ça me fait revivre aussi un moment où je vivais avec eux, donc dans notre enfance et petite enfance, où c'était franchement pas cool, quoi. Et je pense que je repasse par là aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... qui n'est pas finalement que je pensais avoir réglé et qui n'est pas finalement si réglé que ça. Et je pense que quand vous dites libérez-vous, c'est qu'il y a une douleur ou il y a une ancienne colère ou un ressentiment qui n'est pas réglé, en fait. Qu'il y a la part de l'enfance en moi qui est pas réglée, en fait.
Oui.
Et je pense que je dois revivre ça. Il y a quelque chose qui me remet là-dedans, en fait.
C'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est vous comme ça qui le ressentez, si vous avez des pensées négatives, parfois elles sont totalement et certainement en lien avec le passé, mais certainement pas avec votre présent.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Donc,
je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Je vois des fonctionnements et je me dis, waouh, j'ai eu ce père-là quand même. Waouh. Ok. Et donc c'est le deuil de bon maintenant c'est un peu un vieux lion fatigué hein mais on en a bavé quand même.
Quelle belle image.
Du vieux lion fatigué.
Ouais, c'est vrai, ça c'est vraiment effectivement donc en tout cas vous avez des parents extraordinaires et je suis sûre qu'ils mesurent la chance de vous avoir également près d'eux.
J'ai pas l'impression.
C'est. Ah ouais? Qu'est-ce qui vous fait penser ça?
Ben parce que mon père peut être très agressif avec des phrases vraiment humiliantes et pas gentilles et enfin pff. Mais ça c'est pas nouveau hein.
Ouais.
Donc c'est vrai que pendant donc de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 54 ans, j'ai un peu échappé à tout ça parce que je vivais pas avec lui. Mmh. Mais que là, je me le prends, j'arrive pas à prendre du recul quoi, et ça blesse encore quoi.
Et vos filles, en fait, hein, vous avez deux filles ?
Ouais, j'ai deux filles, mais qui vivent pas avec moi, donc elles viennent de temps en temps.
Ouais.
Donc elle l'évite aussi un peu hein, parce qu'il est un peu, il est pas toujours très gentil.
Et votre frère est loin de tout ça, lui, en revanche ?
Bah, lui, il est loin de tout ça. Il est venu une semaine, là, fin juin. Mmh. Mais au bout de deux jours, mon père lui fait comprendre que, voilà, c'est bon, ça y est, c'est fait, c'est bon.
Merci d'être passé.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, c'est vrai que pour mon frère, je comprends que ce soit un peu... Genre, il les voit une semaine par an, et au bout de deux jours, l'autre, il est un peu genre, bon, c'est bon, quoi.
Alors, vous savez que j'aime bien avoir des nouvelles de nos auditeurs quand ils sont passés à l'antenne, parce que vraiment, ça crée du lien, on s'intéresse, ça fait résonance chez certains, ça fait réagir chez d'autres. Vous nous aviez donc appelé au mois de juin, et qu'est-ce qu'elle vous avait conseillé, Sabine ? De quoi est-ce que vous aviez parlé ? Et qu'est-ce que vous avez pu mettre ?
Sabine, j'avais fait tout un état des lieux où c'était encore, la période était plutôt bien, et Sabine m'avait dit... Tant que vous n'êtes pas prête à prendre la décision, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt encore. Mmh. Donc prenez le temps de voilà que ça monte et que ouais. Et vous soyez au clair avec ça quoi. Sauf que là c'est greffé la difficulté où c'est papa là qui manifeste le fait qu'il souffre quoi, qui va mal quoi. Mmh, mmh, mmh. En fait et ça s'est accentué depuis un mois quoi.
Bon, en tout cas, Tina, vous avez vraiment toutes les réponses en vous, déjà. Je vous trouve extrêmement clairvoyante et lucide sur la situation. Donc,
ah bon, d'accord.
Bah, vraiment, libérez-vous. Merci. Libérez-vous, Tina. Voilà,
merci beaucoup de ce mot. Je vais beaucoup réfléchir à ce mot. Vous avez raison. Ben, merci infiniment de votre écoute et d'avoir parlé avec moi.
Je vous en prie. C'était un vrai
plaisir.
Et puis,
s'il y a des auditeurs qui vivent un peu la même chose, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots.
Bien sûr.
Voilà.
Bon courage. Vraiment. Et merci de nouvelles. Merci vraiment.
Oui, avec joie. Merci beaucoup.
À bientôt, Tina.
Au revoir.
Je remercie à la fois Solange, Séverine, Tina, de leur confiance. Je leur souhaite vraiment courage dans les épreuves qu'elles sont en train de traverser actuellement. Nous retrouvons demain à 22h pour de nouvelles confidences. Vous avez rendez-vous avec le programme de la nuit après les informations de Wilfried de Villers. Je vous souhaite une douce nuit.